VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Angola. En Angola, le Premier ministre du Portugal, Antonio Costa, est arrivé ce lundi à Luanda pour une visite officielle de 2 jours qui doit accélérer la normalisation des relations entre les deux pays après une période de froid suite à la décision de Lisbonne de juger sur son territoire l'ancien vice-président angolais Manuel Vicente pour corruption. L'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, qui a rayé sans partage sur son pays de 1979 à 2017, en avait pris ombrage, mais les liens bilatéraux se sont réchauffés après la décision de la justice portugaise en mai de transférer à Luanda le procès de M. Vicente, comme le souhaitait l'Angola. Le Premier ministre portugais Antonio Costa a répété aujourd'hui sa volonté de tourner la page. « Il faut nous concentrer sur l'avenir », a-t-il déclaré à Luanda en soulignant les fortes relations économiques entre les deux pays. République démocratique du Congo, 7 leaders de l'opposition annoncent un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre pour exiger de bonnes élections dans le pays. Candidats à la présidence pour la plupart, ces opposants ont fait connaître leurs intentions par le biais d'un communiqué qui dénonce l'instrumentalisation par le pouvoir de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain, indique le communiqué avant de poursuivre. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux et ne s'inscrit pas dans la logique du boycott des élections. Par contre, poursuit le communiqué, l'opposition politique ne permettra jamais la tenue d'une parodie d'élection. Ce communiqué signé par 7 leaders de l'opposition, Vital Kamerhe de l'UNC, Martin Fayulu de la Dynamique de l'opposition, Félix Tshisekedi de l'UDPS Tshisekedi, Adolphe Muzito de l'UREP, Moïse Katumbi d'Ensemble pour le Changement, Jean-Pierre Bemba du MLC et Freddy Matungulu de Congo Nabisso annoncent donc l'organisation d'un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre courant pour appeler la population à adhérer à cette cause. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Politique en RDC toujours, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba entendra aujourd'hui la peine que lui inflige la Cour pénale internationale, la CPI, pour une condamnation de subornation de témoins, pour laquelle il a été disqualifié de la course à la présidence dans son pays. En liberté provisoire, après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye, où est basée la Cour, l'ancien vice-président congolais traîne avec lui cette condamnation connexe qui lui a valu d'être définitivement exclu par la Cour constitutionnelle congolaise de la présidentielle du 23 décembre en RDC. Et puis en Éthiopie, manifestation de protestation ce lundi à Addis Abeba contre les violences intercommunautaires du week-end qui ont fait 23 morts dans la région Oromo, en périphérie de la capitale éthiopienne. Selon le chef de la police de la région Oromo, Alema Yehu Ejigu, cité par l'agence officielle ENA, un groupe organisé a perpétré une série de meurtres et de pillages à Bourayo, à l'ouest d'Addis Abeba. 70 suspects ont été interpellés. Les manifestants aujourd'hui à Addis Abeba accusent des jeunes Oromo de viser des membres d'autres groupes ethniques provenant du sud du pays qui se sont installés ces dernières années autour de la capitale. Addis Abeba est une ville multiethnique de 4 millions d'habitants qui connaît une forte croissance démographique, mais elle est située au milieu de la région Oromo, d'où des conflits entre autochtones et nouveaux venus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, au Mali, l'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle donnant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, vainqueur. Mais le gouvernement va de l'avant et a tenu son premier conseil des ministres. Le président Ibeka a demandé à son équipe, selon un communiqué officiel, de poursuivre avec célérité l'application de l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion Touareg. Le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Telle une rentrée scolaire, un nouveau ministre était au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres du second mandat du président Ibeka. Occasion pour le chef de l'État de dévoiler sa feuille de route. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Premièrement, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxièmement, la promotion d'une croissance inclusive. Troisièmement, le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Quatrièmement, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Enfin, notre présence au monde, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Je vous instruis à poursuivre avec célérité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi qu'il est institué. Avec comme seul souci, la promotion du développement global de notre cher Mali.
L'opposition malienne dit avoir mobilisé 25 000 personnes pour une marche de contestation de la fraude électorale. Thieblin Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu. Son mandat est fini le 3 septembre 2018. Depuis le 4 septembre à 01, il est un président de fait. Il n'a plus la légitimité des urnes. Et le combat, c'est pour rétablir la légitimité des urnes. Les autorités qui sont en place sont des autorités de facto.
Je vous jure, il n'y a aucun doute que le dernier mot reviendra au peuple malien. Et la vérité du peuple sera rétablie. La vérité des urnes sera rétablie.
Du côté de la majorité présidentielle, c'est la mobilisation pour les législatives et les adhésions des clubs de soutien.
Camarades, dites-vous que nous avons décidé de nous engager avec le Rassemblement pour le Mali, le RPM. C'est pour donner une fois de plus un levier au président de la République. Ce levier, il va se traduit par une majorité, je dirais, plus que confortable à l'Assemblée nationale.
On se sent toujours renforcé parce qu'il s'agit là d'une bonne partie de la société civile qui est organisée en association, en club et en mouvement de soutien. Que ces jeunes patriotes décident de nous soutenir, je pense que c'est une force considérable.
Lors de la marche de samedi dernier, Soumaïla Cissé a fait savoir que le combat va se poursuivre.
Nous luttons pour que les libertés démocratiques soient une réalité dans ce pays. Nous luttons pour que les voix soient désormais respectées dans ce pays. Nous luttons pour qu'il n'y ait jamais plus de fraude dans les élections dans notre pays. Nous serons à vos côtés pour combattre l'injustice. Nous serons à vos côtés pour combattre l'impunité. Nous serons à votre côté pour que notre pays avance dans le sens de la démocratie. Nous allons continuer à donner des leçons de démocratie à l'ensemble de la sous-région. Nous allons montrer que les Maliens ne baissent pas les bras devant la fraude. Les Maliens ne baissent pas les bras devant le mensonge.
Ibeka a fixé les capes de son gouvernement alors que l'opposition veut rester toujours dans la rue. En tout cas, le ministre de l'administration territoriale s'attelle pour l'organisation des législatives dont le premier tour est prévu pour le 25 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique maintenant, première élection municipale en Syrie depuis 2011. Le régime du président Bachar al-Assad a organisé ce scrutin dimanche dans la partie du territoire syrien qu'il contrôle désormais grâce au succès militaire enregistré par ses forces et leurs alliés au cours des dernières années de guerre. Nicolas Pinault.
Oui, les Syriens ont pu voter dans les régions tenues par le régime, soit près de 2/3 du pays. En raison du conflit, aucun recensement de la population n'a pu être mené ces dernières années et quasiment toutes les régions ont connu des combats au coût humain très lourd. Plus de 6500 bureaux de vote ont ouvert et les médias étatiques n'ont pas donné le taux de participation pour ce scrutin où plus de 40 000 candidats étaient en lice. La majorité de ces candidats sont affiliés au parti Baas du président Assad. Il s'agit du premier scrutin municipal organisé depuis décembre 2011 au début de la guerre qui a ravagé le pays depuis plus de 7 ans et entraîné la mort de plus de 360 000 personnes et contraint à l'exil des milliers d'autres.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, au moins 15 personnes ont perdu la vie après le passage de l'ouragan Florence dans le sud-est du pays. Les États de Caroline du Nord, Caroline du Sud et Virginie sont les plus touchés, Jean-Roger Bion.
Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, Brock Long, a indiqué que le centre et l'ouest de la Caroline du Nord ainsi que la Virginie n'en avaient pas fini avec les intempéries. Nous en avons encore pour plusieurs jours, a-t-il dit sur CNN. Nous nous attendons à de gros dégâts, a-t-il lancé, précisant que des barrages risquaient d'être menacés à cause de la montée des eaux. Après avoir frappé la côte atlantique, Florence s'est enfoncée dans les terres où la pluie a fait grossir les cours d'eau, provoquant des inondations. Les sauveteurs ont secouru plus de 900 habitants des inondations, alors qu'environ 700 000 foyers restaient sans électricité en Caroline du Nord. Le président américain Donald Trump a salué sur Twitter les sauveteurs et les forces de l'ordre qui travaillent vraiment dur pour aider la population.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.